CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Votre, l'émission politique du vendredi sur CFM Radio. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Labarre, ancien chef de file de Nouveau Montauban lors des dernières élections municipales de Montauban et désormais conseiller municipal et communautaire d'opposition à Montauban. Bonjour Jean-Philippe Labarre.
Bonjour Kader.
Merci d'être avec nous et bienvenue à vous sur CFM Radio. On va revenir bien sûr rapidement sur le scrutin qui a eu lieu il y a près de deux mois maintenant avec une équipe qui est désormais en place à Montauban et au Grand Montauban. Jean-Philippe Labarre, les élections municipales sont désormais derrière nous, mais avec un peu de recul, quel bilan vous tirez de cette séquence, de ce scrutin à Montauban ?
Pour ce qui nous concerne, on s'est absolument régalé. On a été une équipe extrêmement dynamique, citoyenne, qui est venue de nulle part. Quelque part, on m'a pris pour un ovni, hein, puisqu'il y a six mois encore, je le dis, je n'étais pas du tout programmé pour mener une tête de liste aux élections municipales. Au final, tous les gens sont d'accord pour dire qu'on a eu un parcours sensationnel, parce que quand vous regardez partir de zéro et arriver à 13% de voix au premier tour des élections, passer le deuxième tour alors que des groupes plus formels ne l'ont pas passé, y compris des groupes appuyés sur des partis politiques classiques. Moi, je trouve que c'est quand même une expérience absolument phénoménale. Nous avons dérangé le paysage politique.
Mais au-delà du dérangement, hein, oui. Pour reprendre vos propos, vous considérez ce scrutin, cette séquence, ce qui s'est passé dans une campagne qui a quand même, selon tous les observateurs, qui s'est avéré être difficile, dure, hargneuse, parfois même violente, vous considérez que c'est une défaite ? Une défaite pure et dure ?
Non, nous le considérons pas comme une défaite, vu que nous nous retrouvons, on part de rien, et nous nous retrouvons pour Nouveau Montauban, avec trois élus au conseil municipal, qui sont, je rappelle, Brigitte Lamoury, Camille Audouin et moi-même, et deux élus au conseil d'agglomération, Brigitte Lamoury et moi-même. C'est quand même un véritable succès. C'est-à-dire que si on avait, on aurait pu ne se retrouver nulle part. On est quand même élus. Or, il y a des gens qui auraient bien aimé être élus à notre place.
On va en reparler, parce que je crois savoir qui vous pensez. Est-ce que la victoire de Didier Lallemand révèle une demande d'ordre, finalement, de continuité ? Qu'est-ce qui a fait que Didier Lallemand, finalement, se retrouve dans le photo ?
Alors, déjà, moi, j'ai tendance à dire qu'on respecte de façon républicaine le fait que quelqu'un a gagné, mais quand on regarde bien, c'est pas quand même une victoire écrasante. C'est-à-dire que nous avons effectivement 62% des Montalbanais qui ont voté, qui n'ont pas été qui n'ont pas été fascinés par le programme de M. Lallemand, qui n'avait rien pour moi de très fascinant. Ce qui veut dire que, certes, ils ont gagné, je pense, parce qu'il y avait quand même une antériorité à la municipalité précédente, que tout n'est pas à mettre effectivement de côté, qu'il y a des choses qui ont été bien faites, et qu'il y avait une force de frappe assez intense avec, je dirais, des pressions différentes que nous n'avons pas pu appliquer parce que c'était pas notre politique ni notre ADN, mais je crois que là, et peut-être que les gens en fait ont envie d'une certaine stabilité, ils ont peur un peu du changement,
de continuité,
peut-être une certaine continuité. Ils se rendront compte quand même que c'est une continuité, mais avec toujours les mêmes travers, alors avec des différences quand même humaines, hein. Il faut reconnaître que les gens sont ce qu'ils sont. L'ancienne maire inéligible avait fini par instaurer quand même un climat épouvantablement
c'est-à-dire que vous ne mettez pas sur le même plan Didier Lallemand et Brigitte.
Écoutez,
Barrèche.
Pour l'instant, non, nous en avons discuté, il m'a assuré qu'il ne comptait pas faire une politique identique, et j'attends de le voir, et j'espère d'ailleurs, qu'il y aura plus d'ouverture. Alors, quand on parle d'ouverture, il y a quand même un discours un peu ambivalent, parce que d'un côté, on nous fait bien comprendre que nous sommes dans l'opposition, ce que l'on sait, mais on vous dit d'un côté, non, il n'y aura pas de place pour les élus d'opposition dans des délégations, et donc, aucune place pour une indemnité quelconque, ce que je trouve quand même, moi, assez limité, assez scandaleux, puisque on est tous comme on est, mais quand on vient passer deux heures, trois heures dans des conseils, on a on a des métiers, je dirais, une indemnité n'aurait rien eu d'illégitime. Mais là, on a bien compris que c'était pas le précaré sur lequel il fallait taper. Donc voilà, nous sommes dans l'opposition, on nous le fait comprendre, mais d'un côté, on nous dit, il n'y a pas de place pour les élus d'opposition, il n'y aura pas d'indemnité, mais on va ouvrir les commissions, effectivement, ce que nous, d'ailleurs, dans notre programme, vous rappelez que moi, le mot opposition, je voulais absolument le rayer de la carte, parce que nous ne sommes pas, pour moi, je ne me sens pas dans une opposition, je me sens dans une proposition.
Justement, votre campagne, Jean-Philippe Labarre, est reposée sur une ligne hors parti, hors système, hors extrême même, très citoyenne. Est-ce qu'il reste aujourd'hui un espace, un espace politique pour cette démarche-là ?
Moi, je le crois, parce que si vous voulez, si vous avez 13% de gens, c'est plusieurs milliers de gens quand même qui ont adhéré à ce programme. Alors, ils peuvent peut-être adhérer à la façon dont nous avons conduit les débats. On a été extrêmement sérieux, extrêmement respectueux. Moi, j'ai très bien identifié qui nous est rentré dedans. Il n'y a pas d'autre mot.
Est-ce que vous n'êtes pas parti un peu trop tard?
Peut-être, c'est-à-dire que peut-être parti trop tard, ce qui aurait été intéressant, et moi j'en reviens au problème qui s'est posé entre les deux tours, parce que entre les deux tours...
On va y venir, mais
oui.
Juste...
Ça se rejoint, ça parce se qu'en rejoint, fait, mais... quand on dit trop tard, vous avez raison, parce que trop tard, ça aurait permis peut-être d'anticiper l'état des lieux politiques, etc.
Mais d'imprimer davantage dans la tête des Montalbanaises et des Montalbanais.
Exactement, on était. On avait un déficit énorme de
notoriété.
Notoriété. On a bien vu que ça a beaucoup changé et que maintenant les gens nous reconnaissent, les gens nous interpellent, les gens ont été quand même assez séduits par cette prise en charge citoyenne et ont envie quand même que ça perdure, et ça perdurera, on en reparlera tout à l'heure.
Alors, vous avez commencé à esquisser l'entre-deux-tours, celui qui a beaucoup fait parler. Est-ce que votre liste donc a fusionné, Nouveau Montauban a fusionné avec celle de Thierry Deville, prêt pour demain, avec le recul toujours, comment vous jugez ce choix politique ? Est-ce que vous le referiez aujourd'hui ?
On le referait. C'est-à-dire que nous avons fait une fusion de campagne. C'est pas une, c'est effectivement
une technique.
Et c'est là où j'en reviens à dire que je peux le dire aux auditeurs, moi qui suis un certain cardiologue, un citoyen qui n'avait pas d'expérience politique, j'ai été confronté au fait de faire une fusion avec tout ce que ça entraîne, et je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. C'est-à-dire que techniquement parlant, ce que je regrette, c'est que par exemple quand on a des élections législatives, on a pratiquement 15 jours entre les deux tours, on a vraiment le temps de se retourner, de discuter, de faire des travaux d'alliance éventuellement. Là, c'est impossible. Il y a clairement, pratiquement, il ne se passe que 36 heures, et en 36 heures, vous devez savoir vers qui vous vous tournez, etc. Pour savoir vers qui on s'est tourné, effectivement, on a fait un calcul un peu arithmétique, un calcul de campagne. Quelles étaient les associations qui étaient les plus raisonnables? On a lancé un appel, j'avais lancé un appel aux forces républicaines, mais
est-ce que vous avez appelé qui? Parce que j'ai regardé, pour préparer cette émission, j'ai vu que vous êtes encore aujourd'hui, vous êtes fustigé, vous êtes attaqué, par vous personnellement, mais votre démarche, en tout cas par le Parti Socialiste, notamment
Monsieur
Hillon, je veux dire par là, est-ce que vous avez appelé tout le monde à ce rassemblement ?
J'ai fait un appel. Alors, vous rappelez que je n'ai jamais été invité au débat de France 3.
Oui.
Pour des raisons que j'ignore encore, si ce n'est qu'on m'a dit que nous n'étions pas représentatifs. Un sondage préalable nous met à 15%, là nous devenons représentatifs, on apparaît. En tant que citoyen, moi je trouve ça totalement scandaleux. Bref, donc le soir du premier tour, quand je suis arrivé à la mairie pour voir ce qui se passait, j'avoue que c'était une ambiance assez surréaliste, et j'ai bien vu les gens de FR3 et qui étaient bien occupés avec M. Lallemand, qui était devant une tribune assez large. Je me suis dit, je ne vais pas en rester les bras ballants, c'est pour ça que je me suis avancé, et très honnêtement, très clairement, j'ai dit aux gens, mais écoutez, il faut que les gens qui sont certes en deuxième position, mais qui ont la capacité de se réunir. Et j'avais nommément dit le citoyen Hillon, le citoyen Lévy, je leur ai proposé. Ce sont des gens que l'on a appelés, que l'on a contactés, mais M. Lévy, pour différentes raisons techniques, ne nous a pas répondu, ou en tout cas n'avait pas son répondeur sur place. Il faut encore une fois aller extrêmement rapidement.
Vous avez appelé Jean-Louis ?
Oui, mais évidemment. Oui. Évidemment. Le soir, c'était... on n'est pas là pour se justifier, donner des preuves. Mais si vous voulez regarder mon téléphone portable, vous verrez les appels à quelle heure on les a passés, tout ceci dans des conditions difficiles, parce que les résultats ont été obtenus très tard, on va dire que c'est qu'à partir de 23h qu'on a pu savoir qu'on était en état de faire, et donc j'ai appelé toutes ces personnes-là entre 23h et 2h du matin, puisqu'après, dès qu'on a commencé à discuter avec l'équipe de M. Deville, on a pratiquement discuté toute la nuit, on en a eu encore toute la journée le lendemain. Non pas que les discussions étaient difficiles, mais ça prend du temps, encore une fois, ça vous montre que ce schéma-là est très difficile à gérer. Et je rebondis sur votre première question. Il eût été effectivement intéressant, peut-être, de réfléchir avant de ce que l'on aurait pu faire. Or, ce n'était pas notre démarche, puisqu'on ne voulait pas rentrer dans la combination, dans l'anticipation. Déjà, on dit que je m'étais entendu à l'avance avec M. Deville, ce qui est totalement faux. Je ne le connaissais pas physiquement, à part de le croiser sur les marchés. Donc, c'est comme la fameuse relation avec M. Bailey.
Oui, savez, alors, j'allais vous poser la question, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui était prégnant pendant la campagne.
Mais oui, et votre... mais c'était prégnant, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les partis politiques classiques, et c'est très visible à Montauban, ce qui les omnubile, c'est de coller des étiquettes aux gens pour pouvoir, effectivement, mieux les dénigrer. Mieux... Nous, ça a été facile. On est une liste citoyenne, je ne suis pas de gauche, dans ma liste, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, alors on va dire de la gauche modérée, il y a effectivement quelques personnalités qui étaient du PRG, mais c'est pas pour autant qu'ils sont du PRG que nous sommes un organe du PRG. Mmh. Et encore une fois, je le répète, et je peux utiliser du sérum de vérité, je ne connais pas M. Bailey, sauf de l'avoir croisé. Mmh. Donc je n'ai jamais eu aucune réflexion là-dessus. Donc, effectivement, c'est peut-être le travers d'une liste citoyenne neuve qui peut-être manque un peu d'expérience. On n'a peut-être pas eu le temps de tisser des relations avec les autres structures. Moi, j'avais rencontré tous les autres têtes de liste des partis. Je veux dire, ils m'ont vu arriver, on a discuté très aimablement, mais on était dans une discussion de se connaître, pas d'établir des stratégies pour, au final, aboutir à la conquête de la mairie.
Est-ce que vous regrettez que Jean-Louis Lévy, par exemple, oui, n'a pas appelé à voter pour votre liste fusionnée?
Je le regrette. Ouais. Je ne comprends pas, puisqu'en fait, nous sommes une liste au centre. Hein, on est au centre, oui, ouais, oui, puisqu'on n'est ni de droite, ni de gauche. Les gens veulent nous coller des étiquettes, ça les arrange. Mais on est vraiment une liste au centre, citoyenne, qui se veut rassembleuse et qui se veut être vraiment hors des partis et hors des extrêmes. Ça, il est clair que notre combat, c'est de se battre contre l'idéologie des extrêmes, qu'elle soit de droite ou de gauche. Donc, effectivement, la logique, monsieur... Je n'ai pas compris le positionnement de M. Lévy, qui aurait dû, à mon avis, travailler avec nous en amont du premier tour et créer une liste commune. Je ne vous cache pas qu'on a eu des réunions à n'en plus finir. Je ne sais toujours pas ce qui a empêché à ce que nous nous retrouvions. Je pense que c'est des petites problématiques que je n'arrive pas à intégrer clairement. Mais c'est dommage.
Votre campagne, elle insistait beaucoup sur la transparence, la probité, la maîtrise des impôts, de la dépense, la participation citoyenne. Qu'est-ce qui, dans votre message, dans votre campagne, a le plus parlé aux habitants, selon vous ?
Je pense que c'est la sincérité, déjà. Le dynamisme médiatique de ce qu'on a fait passer, ça a plu aux gens. Je veux dire, cette façon de s'exprimer, cette espèce de convivialité, de joie participative, ça les a intéressés. Nous, si vous voulez, ce qui pouvait les intéresser, c'est qu'on mettait l'humain au centre de tout. Donc c'est vrai que ça, ces données humanistes, ça peut intéresser beaucoup de gens, peut-être plus des gens qui ont une affinité de gauche, peut-être. Mais au final, non, parce qu'on s'est rendu compte que on a réuni sur notre projet, et moi je peux en être le témoin sur notre liste, des gens qui vraiment, au départ, n'avaient pas grand-chose à voir dans le concept politique.
Vous les retrouvez, toute votre équipe?
Oui. Alors, justement, ça c'est un truc qui est absolument extraordinaire, c'est que ça a créé une vraie famille, c'est-à-dire nos 50 colistiers, nous nous retrouvons très régulièrement, nous avons conservé notre structure Nouveau Montauban, qui est un micro-parti, nous avons conservé notre local aux 4 rues Porte du Moustier.
Vous le gardez, ce local?
On le garde absolument, puisque nous sommes dans une dynamique de travailler. Nous avons constitué un bureau, nous avons constitué un conseil d'administration, nous allons les réunir très prochainement, nous allons faire appel aux adhésions des...
Vous êtes le président du bureau ?
Non, président du bureau, c'est Alain Botte, qui était président de l'association Nouveau Montauban. Moi, je suis membre avec Mme Lamoury, avec Mme Audouin, de la commission des élus. Mais chacun aura un rôle à travailler, et c'est ça qui est très intéressant. Nous avons des gens absolument passionnants, qui sont très motivés, et qui veulent...
Rester, même après le travail de fusion.
Ah oui, alors je dirais que oui, tout le monde est resté. Alors ça a créé forcément une problématique. Oui. Il n'y a pas eu la possibilité de créer vraiment un débat. Alors moi je suis assez décideur dans ma façon de fonctionner. Moi, dans mon métier, il faut prendre des décisions en médecine et autres. Je ne vais pas commencer. Il faut que ça soit collégial, mais il faut aussi à un moment donné qu'on prenne la décision. Après tout, j'étais le tête de liste, c'était normal. Mais ces décisions-là, si vous voulez, quand il s'agit de fusionner, on n'a pas eu le temps réellement de poser la question à chacun des colistiers, est-ce que tu es d'accord, est-ce que ça te va, etc. Nous savions intuitivement que ça poserait des problèmes pour certaines personnes, mais ces personnes-là, même si elles ont peut-être eu du mal à avaler le truc, elles ont suivi le jeu, elles ont accepté, et tout s'est bien passé.
On vient sur la question de la transparence, qui en tout cas faisait partie de l'ADN de votre, de votre programme. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait changer dans, concrètement dans le fonctionnement d'une ville comme Montauban ?
Sur ce, je pense qu'il y a des choses. On se rend compte avec Madame Lamoury, nous sommes aux commissions, enfin avec Madame Audouin au conseil municipal, mais on le voit peut-être encore plus sur le conseil d'agglomération. On se rend compte qu'il faut être au courant de tout ce qui se passe. Ça demande beaucoup, et nous sommes des gens travailleurs. C'est-à-dire que et pourquoi on a envie de continuer, c'est qu'on a envie de rendre service à la population, que de la ville, des cantons, pour justement comprendre les projets et voir quel est vraiment leur intérêt. Ça demande du travail, parce que l'analyse n'est pas évidente. Et la transparence n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que quand vous avez des rapports où il faut, on comprend pratiquement qu'un mot sur deux, où c'est très difficile, vous n'avez pas eu le temps de vous rentrer dans le dossier et qu'il faut à la fin voter qui est pour, qui est d'accord, etc. Je dirais que c'est pas évident.
Est-ce que la diffusion, par exemple, des conseils municipaux et des conseils communautaires pourrait, la diffusion sur Internet, ou en tout cas filmée, ça fait partie des propositions que vous avez faites,
oui,
idéalement,
oui,
est-ce qu'il l'entend, ça?
Parce que, je veux dire, pour l'instant, alors, je ne vous cache pas qu'elle est première.
Moi, ça que le fait,
oui, mais ça
le
mérite,
conseil départemental
le fait. Je pense qu'il le
faudrait,
parce qu'on a des gens qui viennent dans le public, qui viennent s'intéresser, qui viennent voir, et c'est vrai qu'encore une fois, et c'est pour ça que je suis ravi que Nouveau Montauban ait eu cette posture, et au final, ait des élus, parce que nous sommes, entre guillemets, dans la place, nous sommes à l'intérieur. Mmh. C'est toujours mieux d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Alors, vous faisiez partie d'un même groupe, si je puis dire, puisque la liste avait fusionné avec Prêt pour demain de Thierry Neuville. Est-ce que désormais, c'est chacun sait soi?
Non. Alors, ce groupe en tant que tel, ce n'est pas un groupe politique, c'est un groupe, encore une fois, c'est une fusion de campagne qui fait que ça amène 7 personnes autour d'une même table. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas une importance énorme de se dire qu'on va encore dissocier deux choses, ça n'apporte rien. Mmh. Les gens savent très bien qui est qui. Monsieur Deville était le tête de liste de Nouveau Montauban Prêt pour demain. Moi, je suis la tête de liste de Nouveau Montauban. Mais on entend bien dans le groupement Nouveau Montauban, et ça, c'est notre ADN. Mais donc, autour d'une table, on n'a pas besoin de s'éclater.
Vous continuez à travailler,
oui,
avec Thierry,
évidemment, parce que ça n'a aucune espèce d'importance. On est dans un projet, on va dire, oui, on est dans une logique de projet, d'essayer de faire avancer des projets en commun. Vous verrez que quand on est dans les conseils municipaux, il y a beaucoup de décisions qui, au final, se décident à l'unanimité. Vous avez toujours un même groupe qui a tendance à s'abstenir systématiquement, mais je dirais, pourquoi s'abstenir systématiquement? C'est peut-être une stratégie. Nous, ce n'est pas le cas. Je veux dire qu'on ne s'abstient que si vraiment on estime qu'il faut s'abstenir.
C'est-à-dire que vous êtes dans une position constructive?
On est absolument dans une position constructive, puisque moi, encore une fois, le mot opposition, je le rejette.
Et quand vous dites le groupe qui s'abstient automatiquement, c'est celui de
Arnaud Lyon? Je pense qu'ils ont une stratégie, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui concerne la municipalité, je le vois bien, c'est que si c'est la municipalité, on s'abstient. Si c'est extérieur à la municipalité, je veux dire dans l'agglomération, on vote, bon, pourquoi pas. Mais ça, à la limite, chacun fait comme il veut, c'est pas très grave. Nous ne rentrerons pas dans l'opposition systématique, on est là pour travailler pour les Montalbanais, pour être à leur écoute, parce qu'en fait, ils nous ont dit, on aurait pu choisir, vous savez, en étant battu, il y a des gens qui l'ont fait, on aurait pu choisir de dire, bon, écoutez, je ne vais pas m'enquiquiner, pour ne pas utiliser un mot plus trivial, à aller à un conseil municipal où je vais passer mon temps à être dans une opposition où je vais être obligé de ratifier tout ce qui est décidé par les autres. Mais écoutez, ce n'est pas du tout ça, parce que d'abord, les gens, je pense, ont compris qu'on avait quelque chose à dire, qu'on avait une personnalité qui s'est affirmée pendant cette campagne et qui va continuer de s'affirmer. L'idée étant de rallier des gens qui ont envie d'avoir une autre perspective hors des partis, on le voit bien, d'autres élections s'approchent, les cantonales, les sénatoriales, et il faut qu'on donne, à la limite, des têtes différentes, des visions différentes, et encore une fois, sans idéologie.
C'est-à-dire que vous voulez continuer à peser sur le débat montalbanais.
Ah ça, c'était clair. Ouais. Sinon, on se serait arrêté. Or, là, on a vraiment une volonté, et d'abord des compétences humaines, dans tous les domaines, pour réfléchir dans tous les domaines qui intéressent la vie d'une collectivité. Ça, c'est évident.
Vous avez parlé des échéances à venir. Je pense, avant de parler des sénatoriales, effectivement, ça va être un scrutin important, avec des personnalités qui commencent à émerger. Vous avez certainement pris connaissance d'une probable future candidature de Brigitte Barège
au Sénat. Ce n'est même pas probable, oui. Puisque...
Est-ce que ça vous étonne qu'elle soit candidate?
Ah non, mais moi, comme je... Excusez-moi, vulgairement, je l'ai appelé le chewing-gum, parce que c'est un peu l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'arrivent jamais à se décrocher du strapontin où ils se trouvent. Vous savez, il y avait un dessin qui était assez rigolo, humoristique, on disait, je suis médecin, la chirurgie la plus difficile en médecine, c'est de séparer un homme politique de son siège. Je crois qu'on est exactement dans cette situation-là. Elle ne sait plus que faire pour remplacer un siège par un autre. Bon, c'est sa logique. Moi, je ne l'accepte pas, et d'autant plus que cette personne véhicule quand même des idées politiques qui sont à l'opposé de ce qui m'intéresse. Voilà. Alors, après, je ne sais plus quelle question vous posez.
Je vous dis si
oui, elle s'est déclarée en faisant un appel à candidature pour son parti, en faisant une fête champêtre que j'ai appelée où il y aura beaucoup de saucissons, parce que je pense qu'il n'y aura pas beau. Voilà, il y a beaucoup de place pour, vous voyez ce que je veux dire, un certain pluralisme au niveau religieux et autres. Bon, bref, donc si vous voulez qu'elle se soit déclarée très bien, je crois qu'il y a M. Lévy qui est sénateur sortant. Après, je ne connais pas les autres. Je sais très bien que dans les sénatoriales, ça va être quelque chose qui est tourné sur la personne même, hein, c'est-à-dire la connaissance de la personne.
Ça ne vous étonne pas, donc, qu'elle soit...
Ah non. Ah non, je pense que n'importe quel... vous savez, on sort d'un côté, on rentre de l'autre. Non, je crois que c'est difficile. Manifestement, elle a du mal à se décrocher. J'espère, pour rien ne vous cacher, que, en tout cas, le mouvement politique qu'elle souhaite faire grossir aura des contrariétés et aura des personnes qui seront même amenées la contradiction là-dessus.
C'est-à-dire ? Plus précisément, je n'ai pas saisi.
Non, c'est-à-dire que moi, personnellement, je n'adhère pas
On a compris.
Et donc, nous serons, avec d'autres personnes qui, à mon avis, sont dans le même sens. Je vous rappelle qu'il y a quand même 62% des Montalbanais qui n'ont pas voté pour l'UDR. Et j'espère que même si on voit qu'il y a une droitisation nationale de la vie politique, qu'il y aura des gens qui vont ouvrir les yeux et se rendre compte que cet extrémisme et cette orientation avec des personnalités comme M. Ciotti, M. Bardella, Marion Maréchal Le Pen, honnêtement, c'est pas des gens qui me font rêver.
Alors, rapidement, sur Montauban, quelles, selon vous, les trois priorités auxquelles devrait s'attacher Didier Lallement pour mener à bien cette mandature? Pour vous, c'est quoi les priorités
Je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Mais pour l'instant, encore, je ne jette pas la pierre, parce que ce maire vient d'arriver, c'est qu'il me l'a répété, ça je le crois, mais il y a quand même des thématiques...
On vous sent conciliant auprès de lui.
Oui, parce que si vous voulez, moi je suis encore une fois, moi j'attends de connaître les gens. Des gens me connaissent, les gens se sont permis des jugements sans nous connaître. Entre autres, on est allé nous dire, par exemple, que nous avions fait une campagne contre l'extrême droite et pas pour les Montalbanais. Ça, c'est la pire des bêtises que je peux entendre, mais ça vous prouve bien que le but des gens, c'est de dénigrer les gens via des étiquettes. Moi, monsieur Lallement, je l'ai rencontré, je l'attends. Tant au tournant, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que moi, il y a des thématiques.
Par exemple,
les écoles, la mobilité. On a beaucoup œuvré, nous, pour la réflexion sur la mobilité, qu'elle soit douce ou qu'elle soit par rapport aux voitures. Là, on vient d'inaugurer en grande pompe dans ce fameux tour de ville, moi, qui personnellement ne me séduit pas beaucoup, des places de parking au pied du musée Ingres. Mais encore une fois, c'est pour permettre encore une fois à la voiture de rentrer un peu plus dans la ville. Alors que nous, vous vous rappeliez, nous avions eu toute une thématique sur comment aller en ville sans utiliser sa voiture, mais en ayant un rythme d'action le plus important possible, parce que sinon les gens ne prennent pas le bus. Et encore une fois, voilà, je les regarde, un jour je vais monter dedans à des heures spécifiques, je peux vous assurer que, je répète encore une fois, à Montauban, les bus sont trop grands, trop vides et trop rares.
Est-ce que vous craignez pas que les moyens soient plus bas dans les années à venir? On sait que les réductions de crédit vont s'accumuler avec peut-être des...
Je suis d'accord, mais si vous voulez, vous parlez de crédit, je suis d'accord avec vous, mais moi je pense aux écoles, il y a un travail à faire. Il y a quand même eu, à Montauban, et ça c'est un problème très électoraliste, un affichage de faire des choses soi-disant fondamentales pour les Montalbanais qui ont coûté un argent de dingue, pour rappeler une expression, et vous voyez, je prends l'exemple de la SMAC. On est allé faire une SMAC. Cette SMAC, je sais depuis qu'en fait son positionnement a erré dans la ville pendant des heures. On l'a mis en face de Rythmie. C'est personnellement, je trouve, et je ne suis pas le seul, un bâtiment absolument horrible architecturalement parlant, et dans un quartier, alors je sais que c'est tout proche de chez vous, mais le quartier là où il est placé, il n'y a rien autour. Vous n'avez pas de capacité de vous garer proprement, vous avez vu le temps que j'ai mis pour me garer par ici, et deuxièmement, il n'y a pas d'activité ludique. Les gens qui sortent d'une activité de spectacle, ils ont envie d'aller au restaurant, il n'y a rien. Or ça, ça a coûté pratiquement 20 millions d'euros. Moi je suis désolé, mais 20 millions d'euros sur un truc qui n'est pas totalement indispensable. Le Rio, moi, il me semble, aurait mieux fait de se retrouver repositionné dans la ville basse, parce que la ville basse, elle a été complètement martyrisée. On vous dit maintenant que c'est un quartier qu'il faut développer, mais ça aurait bien mérité qu'on fasse... Vous voyez, c'est, quand je parle d'investissement, 20 millions d'euros ou 18 millions d'euros pour une SMAC, alors que vous avez des écoles qui manquent cruellement de moyens, et que nous, on manque moins de moyens à l'échelon national, c'est sûr que les collectivités, il faut faire des choix.
Vous avez certainement vu que les températures, nous sommes au tout début juin, même pas encore
on
juin.
A crevé de chaud.
Voilà. Et vous parliez des écoles. Est-ce que vous allez alerter Didier Lallement sur l'état des écoles et notamment le fait de rafraîchir les salles de classe?
Mais évidemment, y a, ça c'est, moi j'avais appelé ça un plan Marshall, mais il y a un plan Marshall des écoles à faire.
Vous allez alerter Didier Lallement?
Mais on le fera le moment venu, oui, oui, évidemment.
Non, mais là, il y a eu des conseils communautaires, municipaux.
Eh bien, on va. Vous savez, il faut que. Je n'en suis qu'à mon deuxième conseil communautaire. Donc, il faut se roder à un protocole, à un certain nombre de choses. Mais croyez bien que toute la mise en place que l'on est en train de faire avec Nouveau Montauban, avec ces commissions, ces groupes de réflexion, c'est pour pouvoir apporter des choses au moment des conseils municipaux.
Vous reviendrez nous en parler, Jean-Philippe Labarre.
Absolument.
En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation à cette
émission.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. À très bientôt.
Podcast et replay. CFMradio.fr